Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. En 2008, une crise financière mondiale imprévue a jeté dans la misère des millions de gens sur la planète. En 2015-2016, la France a été marquée par une campagne terroriste opaque dont personne n'est encore parvenu à tirer toutes les leçons. En 2016, un menteur sociopathe a été élu contre toute attente président des États-Unis. Et l'année 2018 s'achève en France avec le mouvement des Gilets jaunes que nul ne parvient à saisir ni à caractériser. Comment vivre dans un monde qu'on ne comprend plus du tout et comment en rendre compte? Le défi de mettre en forme l'époque n'a jamais paru aussi difficile. Comment l'art, en particulier ses formes archaïques que sont la littérature ou le théâtre, aurait-il encore quelque chose à nous dire? Ce que l'on appelait autrefois la culture a laissé le pas à l'information et pourtant on n'a peut-être jamais si peu su quoi que ce soit du présent. Parmi les trentenaires, les milléniums, comme on dit, qui cherchent à relever le défi et qui y parviennent, de façon parfois éblouissante et toujours passionnante, on reçoit aujourd'hui les comédiens de la troupe Si vous pouviez lécher mon cœur, dirigé par Julien Gosselin, qui monte en ce moment aux ateliers Berthier à Paris un spectacle éblouissant. Ce spectacle est adapté de Joueurs, Mao II et Lénon, trois romans écrits par l'écrivain américain Don DeLillo, écrivain assez peu lu en France et dont on va parler aussi dans cette émission. Attentats, finances mondiales, World Trade Center, querelles de couple, sectes, mystique du langage, mystique de la terreur, mystique de l'information, 9 heures de plongée théâtrale totale, explosive et dérangeante dans la furie du monde contemporain. Et donc, pour en parler, comme je viens de le dire, Victoria Kennel, bonjour.
Bonjour.
Denis Herrier, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Leggens, bonjour.
Bonjour.
Trois comédiens de la troupe Si vous pouviez lécher mon cœur. Et aussi Marianne Véron, traductrice de Don DeLillo, bonjour. Et avant d'en parler, tout de suite, ça. Un chant chinois maoïste, révolutionnaire. Victoria Kennel, vous vois rougir, c'est vous
ouais.
qui chantez.
Ouais, ouais. En fait, dans ma tête, je chante plus comme Liza Minnelli. Et puis là, d'un coup, j'ai comme une prise de conscience un petit peu violente. En même temps, il faut faire face à la réalité. Voilà. Ouais. Donc, tout à fait. C'est un chant qui s'appelle Shou Hui Tsu Yi Hao. Donc, ça, c'est mon accent chinois. Et qui s'appelle Le socialisme, c'est bien.
Mmh, mmh. Alors, ça fait partie des chants qui viennent ponctuer, parce qu'il y a pas, il faut expliquer qu'il n'y a pas vraiment d'entracte quand on va voir les 9 heures du spectacle. Les trois romans s'enchaînent, ils sont ponctués d'intermèdes, et donc les chants chinois révolutionnaires, ce sont les intermèdes entre Joueurs et Mao II.
Ouais, tout à fait.
D'où est venue cette idée baroque qui n'est pas du tout dans les livres,
hein. Alors, il me semble que c'est parce qu'on avait montré à Julien, après un voyage qu'on avait fait en Chine, on lui avait montré des extraits de comédies musicales qui étaient les seuls spectacles autorisés pendant la Révolution culturelle. Et je crois que ça l'avait assez passionné de voir cette espèce de ballerine avec des kalachnikovs, une espèce de d'élan comme ça lyrique en chanson comme ça pendant cette période-là. Et je crois que ça l'avait fort intrigué. Mm-hmm. Et que du coup ça lui a donné envie de recréer un. Enfin, il me semble que c'est de là que c'est venu, quoi. Une espèce de...
Ouais, et puis ça a créé une résonance aussi, parce que très vite, chez Julien, Godard est apparu. Et voilà, ça a créé une résonance en lui. Il s'est dit, ah mais tiens, vous m'aviez montré ce truc, il a regardé et ça lui a parlé. Il avait l'impression qu'il y avait une cohérence, en tout cas dans l'imaginaire qu'il développait pour les terroristes de Joueurs, de mettre cette espèce de cabaret chinois aussi.
Puis il y a quelque chose qui se prête bien dans le côté entracte, parce qu'effectivement, c'est le désir de Julien que les gens entrent et sortent pendant le spectacle et qu'il y ait une liberté. Mm-hmm. Et c'est vrai que, bon, d'ailleurs, je le constate, c'est quelque chose qui me déplaît pas du tout, d'ailleurs, c'est que les gens, quand c'est de la chanson, voilà, s'estiment un peu plus libres, ont compris, peuvent aller boire une bière et écouter les chansons dans le couloir, elles sont retransmises à l'écran. Cette forme se prête bien aux allées et venues, comme
Alors,
ça, entre les
le dispositif collectif aux ateliers Berthier. C'est on arrive quand on vient voir le spectacle dans sa totalité. Bon, ça commence à 1h30, je crois, 1h ou 1h30. Chaque roman fait 3h à peu près. Et entre 3h, il y a donc effectivement ces intermèdes. Le premier sont les chants chinois. Le second intermède, c'est un extrait ou c'est même la totalité d'un texte de Don DeLillo.
La totalité. Oui, il y a quelques coupes.
Qui s'appelle La Faucille et le Marteau. Le Marteau et la Faucille, je ne sais plus dans quel ordre. Le Marteau et la Faucille, c'est ça. Qui est une. Enfin, on va en parler pour chacun d'entre vous, mais c'est un peu une prouesse d'acteur parce que c'est dire tout ce texte comme ça pendant que les gens vont et viennent, effectivement.
Oui, puis il faut dire aussi le nom de l'acteur.
Oui.
Parce qu'en fait, on parle pas assez des acteurs.
Je dis son nom, Joseph Drouet.
Voilà, Joseph Drouet.
Je dis les noms.
Absolument. Et donc, Joseph Drouet dit, on va en entendre un extrait tout à l'heure. Joseph Drouet dit ce texte qui est incroyable.
J'étais absolument subjugué et choqué presque, parce que il le disait tellement, et c'était tellement naturel, et ça durait, et ça continuait, c'était tellement prodigieux que j'ai commencé à chercher. Je dis, mais il n'a pas de prompteur. Parce qu'un jour, je suis allé à un endroit où il y avait quelqu'un qui avait un acteur, qui avait des prompteurs partout, et je lui dis, non, il n'a pas de prompteur. Puis quand on le voit avec la caméra, et il regarde en face, non, il le dit, et je lui ai dit après, ça l'a un peu sans doute choqué, mais non, pas juste, il parle. Alors il le dit sublimement.
On peut peut-être écouter tout de suite un extrait de ce passage, puisqu'on en parle, pour donner une idée à la fois de la prouesse que ça représente et aussi du contenu du texte, parce qu'il est important dans le cadre du spectacle.
Le nom à retenir est Dubaï. C'est le nom qui traverse les continents et les océans à la vitesse vertigineuse de la lumière. Les marchés plongent à toute allure. Paris, Francfort, Londres, Dubaï a la pire dette per capita du monde. Et maintenant que le boom de la construction immobilière s'y est effondré, elle ne peut plus rembourser aux banques ce qu'elle leur doit. Le secteur de la construction immobilière de Dubaï doit aux banques 58 milliards de dollars, à quelques milliards près. Le DEX en Allemagne en baisse de plus de 3%. La Banque Royale d'Écosse en baisse de plus de 4%. Le nom à retenir est Dubaï. Cette ville-État, criblée de dettes, demande aux banques un moratoire de 6 mois pour le remboursement de sa dette. Dubaï. Le montant de l'assurance de la dette de Dubaï contre le défaut de paiement a augmenté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Savons-nous ce que cela signifie ? Cela signifie que la valeur moyenne du Dow Jones est en chute libre. En baisse, en baisse, en baisse. La Deutsche Bank en baisse. Londres, l'indice du FTSE 100 en baisse. Le Hang Seng à Hong Kong, pétrole brut, fonds obligataires islamiques en baisse, en baisse, en baisse. Le nom à retenir est Dubaï. Redis-le, Dubaï.
Voilà, on entend donc ce texte qui dure très longtemps pendant l'intermède et qui est d'une ironie évidemment cinglante.
C'est toujours une langue très simple.
Oui.
Et en même temps, c'est d'une sophistication effrayante parce que tout est mesuré, pesé. Donc c'est d'une précision pour aller dans la folie. Donc ce sont des étapes. Vous regardez les mots qu'il emploie et ils sont d'une rigueur, d'une modération. Et en fait, c'est pour parler du délire qu'il emploie ça. Et donc l'opposition entre l'écriture et ce qu'il dit est toujours une source d'émerveillement quand on traduit, de voir l'effet, l'impact d'une phrase, et puis ensuite de la recracher comme elle doit être.
Alors on va venir au fond sur le sujet du spectacle et sur Don DeLillo tout à l'heure, mais je voudrais rester sur le texte et quelle expérience c'est pour des acteurs d'abord de dire ce texte. C'est très difficile à faire, non ? Il y a à la fois des très longs monologues et les dialogues qui s'enchaînent de manière grave. Il y a un rythme dans le spectacle qui ne faiblit jamais. Quelle expérience ça représente pour vous? Et d'une part, et d'autre part, difficulté supplémentaire, une bonne partie du spectacle est jouée, si je puis dire, hors scène. Enfin, c'est la scène qui est exclue. C'est-à-dire que vous jouez sans les spectateurs pendant un certain temps, puisque vous êtes filmé et vous êtes séparé de la scène par un mur et les spectateurs ne voient qu'un écran en réalité. Donc comment ça se passe pour des acteurs de théâtre en particulier, une expérience de ce genre ?
Mais moi je pense que d'abord il est beaucoup de choses.
Eric Ledens.
Mais il est, à mes yeux, un très grand dialoguiste. Donc nous savons tous que ce sont des romans. Donc en principe un roman n'est pas écrit pour la scène. Mais comme chez Dostoïevski ou Proust, il y a des pépites en fait dans les échanges verbaux. Alors par exemple, je parle un peu de moi ou pas ?
Oui, bien sûr.
Il y a un dialogue à la fin du spectacle, dans la troisième partie, qui s'appelle Les Noms, où en fait, un des personnages principaux, Owen Bradmas, qui est dans le roman un philologue, un archéologue, qui au fond, d'une certaine manière, un peu comme Bill, l'autre personnage que je joue, l'écrivain, d'une certaine manière, ils font un bilan de leur vie. Qu'est-ce que c'est que une vie, qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Doit-on la réussir? Et lui le fait, en fait, par le biais de, un peu comme un Proust, il le fait en venant ausculter sa propre enfance. Et donc, il boucle une boucle. Et ce long récit qu'il fait au personnage principal, James, d'une certaine manière, n'est pas vraiment comme un dialogue. Et ce n'est pas non plus vraiment un monologue, parce que c'est extrêmement écrit, et qu'aussi, un peu comme chez Proust, les souvenirs arrivent, se bousculent, se chassent, et puis se retrouvent. Et donc, donner chair, vie à ces mots-là, c'était compliqué. Et puis aussi, une chose toute simple, c'est qu'en fait, tout le récit est à l'imparfait ou au passé simple. Et donc, le moment qui se passe dans le spectacle est un moment de pur présent. Oui. Donc, ce sont des questions, je trouve, qui sont absolument passionnantes et très intéressantes à traiter et à essayer de réussir, bien sûr, parce qu'on ne réussit pas tout non plus.
Comment est-ce que vous faites les uns et les autres pour jouer avec la caméra? Parce que c'est, qu'est-ce que ça change d'une expérience de scène traditionnelle de jouer avec une caméra qui vous filme en direct? Ce qui fait que c'est pas vraiment du cinéma, ça reste du théâtre parce que c'est le présent, mais en même temps, il n'y a pas le contact avec les spectateurs. Qu'est-ce que ça change pour vous trois?
Je sais pas si on a tous le même rapport à ça, mais moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a pu nous inhiber un peu au départ, et maintenant, c'est plutôt l'inverse. Moi, j'ai une sensation que ça donne un accès plus direct à ce que je fais, enfin à ce qu'on joue. Et donc, du coup, il y a comme finalement un engagement presque bizarrement, j'aurais pas cru ça, mais qui est plus total, parce que comme si à un moment il y avait une transmission plus immédiate.
Moi, je n'y pense en fait jamais. Sauf que, en fait, j'y pense tout le temps aussi, puisque nous avons ce magnifique caméraman qui est Jérémy Bernard.
Bernard.
Il fait un travail absolument extraordinaire, rien que physiquement, si vous voulez, puisqu'il porte l'appareil pendant des heures et des heures, et il doit bouger. Parce que au fond, c'est toute une histoire aussi, c'est toute une dramaturgie qui a été élaborée avec notre metteur en scène, Julien Gosselin. Et donc, c'est une présence très forte. Et un temps, je pense qu'on arrive petit à petit à l'oublier, en fait. Enfin, moi, je n'y pense plus. Mais j'y pense, par exemple, et c'est arrivé dans certains théâtres, où tout d'un coup, moi, j'ai vu mon visage. Je me suis dit, mais c'est ça mon visage.
Oui,
et
ça, c'est mieux,
ça,
en fait.
C'est... Enfin, vous me direz, voilà, les acteurs de cinéma, quand ils se voient... Moi, j'ai fait un peu de cinéma, donc c'est chaque fois comme une espèce de torture où, tout à l'heure, dans l'essai, j'ai entendu ma voix, je me suis dit, mais c'est atroce, c'est pas possible. Ben si, c'est possible.
Daniel Rier.
Moi, c'est vrai que, donc comme je suis beaucoup plus dans le joueur et qu'il y a ce mur, pour le coup, Jérémy, donc le cadreur, fait, moi... Pour le coup, j'ai tout le temps conscience de lui et je travaille beaucoup avec lui. On se fait beaucoup de notes, l'un et l'autre. Aussi parce que je pense que joueur a un aspect un peu plus cinématographique, justement à cause de la mise en scène qu'a pensé Julien, de ce mur qui nous bloque des spectateurs. Et pour revenir sur ça, ce qui était assez intéressant, c'est que quand on est arrivé à la première à Avignon, donc c'est la première fois qu'on était face aux spectateurs, parce qu'on n'avait pas pu faire de général, parce que nous étions trop en retard. Donc la salle était pleine, il y avait l'effervescence d'une première à Avignon, et on entendait fort les spectateurs rire, réagir, et je me suis rendu compte... assez vite, mais trop tard, enfin, j'ai pu rectifier le tir le lendemain, que du coup, je jouais un tout petit peu trop pour l'autre côté du mur. Or, ce n'est pas ce que demande Julien. C'est pas ça la mise en scène. C'est de jouer réellement pour la caméra. D'autant plus pour joueur qui a besoin de cette cinématographie, beaucoup plus. Et d'ailleurs, enfin, la mise en scène le dit elle-même. Après, ça se découvre sur Mao et encore plus sur les noms. Donc non, moi, je trouve ça extrêmement plaisant, extrêmement libérateur. Mais en revanche, là où c'est du théâtre et pas du cinéma, c'est que ça nécessite tout de même un engagement un peu plus fort.
De quel ordre ?
Mais j'ai pas l'impression qu'on joue.
Je ne sais
cinéma, en fait.
Pas. On joue pas. Effectivement, on ne joue pas tout à fait cinéma. L'état physique dans lequel je termine joueur, je n'ai jamais fini. J'ai un peu tourné quand même. Je n'ai jamais fini de ma vie dans cet état-là. Je suis en sueur. Je peux quasiment plus marcher pendant une demi-heure. Enfin, c'est un engagement physique total. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je pense que c'est ce rapport de présent qui est partagé. Parce que bon, le présent, évidemment, qu'au théâtre, il est un peu plus fort qu'au cinéma, mais en fait, pour un acteur de cinéma, les bons acteurs sont toujours au présent. Ils sont pas là à penser qu'ils sont enregistrés. Mais en l'occurrence, ce présent, on le partage. Et quand même, même si on ne pense pas aux spectateurs, on les entend, on sent quand même la salle. Et on l'aperçoit d'autant plus maintenant que le spectacle, on le maîtrise un tout petit peu plus. Donc ça nécessite un engagement assez particulier, beaucoup plus précis et beaucoup plus aiguisé, je dirais. Voilà.
Vous avez tous les trois participé au particulier élémentaire d'abord en 2015.
Non, moi pas.
Vous n'y étiez pas.
Parce que tout à l'heure, on a dit, on a parlé d'une bande de trentenaires.
Oui. Donc moi, j'y suis. je fais la réflexion en le disant.
De 70 que de 30.
Ouf. Mais vous auriez pu être dans les particuliers élémentaires quand même.
Oui, mais ça ne s'est pas passé.
Sauf que vous n'y étiez pas. Donc, mais en tout cas, tous les deux, Victor Kenel et Denis Herrier, vous étiez dans les particuliers élémentaires. Vous avez été également dans 2666 de Roberto Bolano, oui. Qui sont donc les deux romans adaptés d'abord par Julien Gosselin et toute la troupe. Pourquoi le choix de Delillo ensuite? Il y avait une logique? Ça s'est décidé comment?
Déjà, c'est Julien qui décide.
Oui.
Il nous fait part de ses désirs, mais c'est lui qui décide.
On n'a pas notre mot à dire.
Et c'est assez simple. De la même manière qu'après Houellebecq, qui avait été un succès, Julien voulait quelque chose d'encore plus infaisable. Et je ne sais pas si vous avez lu 2666, mais quand on le lit, on se dit « ça va être compliqué ».
Ouais.
Et c'est ce qu'on s'est dit quand il nous a dit « Ok, on va faire ça ». Et derrière, il a beaucoup lu, il a beaucoup cherché et il a eu une espèce d'évidence. Je pense pourquoi.
Je crois que ça faisait longtemps qu'il connaissait Delillo et qu'il se disait qu'un jour il y viendrait. Mm-hmm. Mais qui.
Oui, et d'ailleurs, même quand j'ai rencontré Julien, il avait pour projet à l'époque qu'on essaie de faire un monologue avec Le Marteau et la Faucille, qui finalement est intégré. Donc il avait déjà cette idée de monter quand même Don Delillo. Mais je pense qu'il connaissait pas aussi bien le reste de l'œuvre. Il était tombé sur ça parce que ça avait été publié dans Libé, de mémoire, à l'issue de la crise financière. Et c'est vrai que quand même, quand vous avez un peu parlé de Don Delillo, je trouve quand même que ce qu'il faut dire, c'est que quand on le lit la première fois, c'est assez complexe et assez sibyllin.
Capacité quand même. Hein.
C'est moi
très complexe. Il y a une écriture très particulière.
Oui. Enfin, moi, même parfois, j'étais un peu fâchée, quoi. Je comprenais rien. J'avais l'impression qu'on me trimbalait. Et puis, de temps en temps, j'étais très émue. Enfin, mais je sentais que c'est quelque chose qu'il fallait que j'apprenne à décrypter. Enfin,
une de ses grandes spécificités, vous me direz si je me trompe, c'est quand même de ne pas savoir qui parle quand il écrit.
Voilà,
ne pas savoir qui parle et ne pas savoir où et quand. Parce que, avec le prétérit anglais, et en gros, je crois que ça s'appelle comme ça, nous, on a le passé simple, on a le passé composé, on a le présent.
Mm.
Et en anglais, c'est jamais le présent. Enfin, sauf Delillo qui utilise aussi le présent. Mais il y a le prétérit. Et le prétérit, eh bien, vous passez du général au particulier. Il dînait chez lui, il aimait retirer ses chaussures, etc. Et il dit à sa femme, alors, bon. Alors, il y a un moment où, est-ce qu'il a retiré ses chaussures maintenant, avant de parler à sa femme? Ou est-ce que il passe, et en fait, c'est un détail ridicule qui n'existe peut-être même pas, mais je veux dire, il passe du général au particulier, sur le même ton, dans la même phrase, et vous ne savez jamais pour sûr, après la, vous avez beau le relire et le relire et le relire, c'est incertain, parce que pour lui, c'est pas ça qui est important.
Oui.
Et nous, eh ben, il faut qu'on apprenne à savoir que c'est important de chercher, mais que c'est pas important de trouver. Et c'est pour ça qu'un jour, j'avais un dialogue avec lui, je lui parlais, je lui disais, mais il y a moins maintenant de descriptions, je vois que votre écriture évolue au fil des livres et que vous épurez de plus en plus. Ça, c'était il y a 3-4 ans. Et il me dit, oui, c'est vrai, j'épure de plus en plus. Et je lui dis, mais moi, ce qui m'amusait, c'était vos descriptions, parce qu'alors là, c'est tellement fou, tellement excessif, tellement magnifiquement construit, son développement sont des explosions. Je dis, moi, je m'amuse follement quand je cherche les mots. Mais tu sais, au moins, quelqu'un s'amuse.
Oui, ce qui est très beau aussi, c'est que, en fait, comment dire, le rapport à la parole change tout le temps aussi, suivant les êtres, les hommes et les femmes qu'il fait vivre devant nous. Et ça, c'est effectivement très beau. Par exemple, le personnage dans les noms, c'est Owen Brademas, il a un rapport à la parole extraordinaire. C'est une espèce d'outre de mots, enfin, qui est percé de partout. Et l'autre, l'auteur, je pense, Bill Gray, il est plus dans une retenue, en fait, et plus dans une chose où, en fait, là aussi, c'est un peu énigmatique, c'est un peu comme parfois des petites formules, et on se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Et donc, il lance ça, comme une petite pouf, Et puis c'est à vous de vous débrouiller avec le paix.
Alors je vais essayer de résumer en quelques phrases de quoi parlent les livres et le spectacle, parce que c'est quand même important. Ces trois romans qui ne se suivent pas, c'est pas du tout la même histoire. Il n'y a pas de personnages récurrents. Vous apparaissez chacun dans les trois, mais les histoires sont toutes différentes, mais les thèmes se rapprochent. Les joueurs qui est écrit, je crois, en 77. Si mes souvenirs sont bons, raconte l'histoire d'un couple new-yorkais qui se retrouve embarqué dans un groupe terroriste d'obéissance maoïste qui projette un attentat dans le World Trade Center, ce qui est une des grandes prémonitions de Delillo parce qu'il est obsédé par le World Trade Center dans plusieurs de ses livres. Mao 2, qui est peut-être mon préféré à la fois dans les spectacles et peut-être aussi dans les livres d'ailleurs, raconte l'histoire de Bill Gray, qui est un écrivain américain reclus à qui une photographe vient rendre visite, dont elle fait les portraits. Lui n'est pas tout à fait d'accord, mais elle les fait quand même. Et finalement, un de ses portraits, paru dans la presse, déclenche la visite d'un éditeur qui lui propose de venir l'accompagner à Londres pour faire une conférence de presse demandant la libération d'un poète américain aux mains d'un groupe terroriste au Liban. Il accepte et Bill Gray se retrouve embarqué progressivement dans des négociations qui lui échappent et il va peu à peu se retrouver prendre la place du poète. Et c'est un livre, c'est une pièce sur le langage, sur la violence et sur les images. Et enfin, Les Noms reprend la même thématique. C'est un groupe d'expatriés américains qui vit à Athènes et qui sillonne le Moyen-Orient pour le compte d'une compagnie d'analyse des risques politiques qui produisent des rapports pour les multinationales et qui est peu à peu confrontée à une secte mystérieuse qui tue des gens dont les initiales des noms sont les mêmes que les initiales des lieux où ils sont assassinés. Dans ces trois romans, on retrouve des thèmes communs et on va écouter un extrait de Mao 2 dans lequel vous êtes, Frédéric Leggens. Votre personnage parle avec Georges Haddad justement du rapport de l'écrivain à la violence et à la terreur, qui est un élément central dans l'œuvre de Delillo.
J'ai cette impression que romancier et terroriste jouent un jeu nul.
Intéressant. Comment ça ?
C'est que les terroristes gagnent, les romanciers le perdent. Le degré de leur influence sur la conscience de masse est à la mesure de notre déclin en tant qu'initiateur de la sensibilité, de la pensée. Le danger qu'ils représentent égale notre propre faillite à être dangereux.
Et c'est difficile quand ils tuent ou quand ils mutilent, parce que vous les voyez franchement comme les seuls héros possibles pour notre temps.
Non !
Leur façon de vivre dans l'ombre, de vivre délibérément avec la mort, leur façon de détester beaucoup de choses que vous détestez, la cohérence de leur vie. Dans les sociétés réduites au flou et au superflu, la terreur est le seul acte significatif. Il y a trop de tout, plus de messages et de significations que nous ne pourrions en utiliser pendant 10 000 vies. L'histoire est-elle possible ? Quelqu'un est-il sérieux ? Qui prenons-nous au sérieux ? Uniquement le tueur fanatique ? Celui qui tue et qui meurt pour la foi, tout le reste est assimilé. L'artiste est assimilé. Le fou dans la rue est absorbé, traité, incorporé. Donnez-lui $1 et mettez-le dans une publicité télévisée. Seul le terroriste reste à l'extérieur. La culture n'a pas trouvé le moyen de l'assimiler. Alors c'est troublant quand il tue un innocent, mais c'est précisément le langage qui leur permet d'être remarqué. C'est le seul langage que comprend l'Occident. C'est leur façon de dominer le flot incessant des images.
Alors c'est un texte qui date de 1982, et c'est très étrange de l'entendre aujourd'hui, non ?
Moi je ne suis pas, mais pas du tout, du tout, je ne ressens pas du tout, je ne parle pas de Don Delillo, je parle de Bill Gray. Pour moi, le langage n'a pas failli, le langage est toujours un moyen incroyable de changer les choses. Moi, je crois toujours au pouvoir du livre, au pouvoir de la littérature. Je pense que par le langage, par les mots, vous pouvez détruire quelqu'un, vous pouvez détruire des peuples entiers. Alors là, c'est un tout petit peu à l'extérieur, mais hier, j'entendais une émission à la télévision. Et tout d'un coup, j'ai entendu ce mot allemand, Judenrei. Mm-hmm. Donc, qui est un mot qui est composé de deux mots, un adjectif rein et juden, un substantif, les juifs. Donc, sans juifs, pur de juifs. Mm-hmm. Donc, je pense que, avec rien qu'un mot, Vous pouvez, enfin, on en a la preuve aujourd'hui. C'est-à-dire que.
Ah oui, on peut faire beaucoup de choses avec un seul.
Bien sûr. Toute la communauté juive, quasiment toute la communauté juive européenne a été décimée, détruite. Donc, j'ai un peu de mal, en fait, à, enfin, je comprends comment l'auteur que j'interprète peut en arriver là, mais ce sont, au fond, d'autres mécanismes qui entrent en jeu. C'est plus un mécanisme de faillite personnelle ou en tant qu'auteur. Mais pour moi, le livre, l'écriture n'a rien perdu, en fait,
de son pouvoir,
de son efficience. J'habite Lyon, donc il y a un métro comme à Paris, mais je suis frappé, en fait, du nombre incroyable de gens qui lisent, qui ouvrent un livre, ils ont couvert leur livre, il y a le marque-page. On dit tout le temps, mais plus personne ne lit en France, les jeunes ne lisent pas, mais ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de livres, mais il faut s'en féliciter. Alors peut-être qu'effectivement les éditeurs font moins de bénéfices, mais enfin bon.
C'est sur cette question du pouvoir ou non de la littérature et de l'art aujourd'hui, est-ce que ça évoque quoi pour vous ce qui est dit dans la pièce?
C'est-à-dire qu'il faut se remettre tout de même, vous me permettez, se remettre dans le contexte de l'époque où Delillo écrivait ça, c'est-à-dire que c'était la puissance totale de la télévision, donc du choc du terrorisme, des bombes. Et où l'écrivain n'avait plus qu'une petite place latérale. Maintenant, les choses changent. On parle de la perte d'importance de la télévision. Moi, j'y connais rien. J'ai jamais regardé la télévision de ma vie, donc je vais continuer. Je le rends pas compte. Mais ni écouter la radio, pardonnez-moi. Mais donc, je vis en dehors de tout ça. Mais je veux bien croire que effectivement, avec les nouveaux médias, les mots regagnent de l'importance. Mais plus, c'est pas forcément les livres. Les mots, ça peut être des mots qui tuent sur des blogs, sur des je sais pas quoi, des tweets ou des machins du psychopathe dont vous parliez. Ce sont des mots qui tuent. Mais à l'époque où Delillo écrit ça, il y a 30 ans, disons, la télévision avait envahi tout, notamment aux États-Unis où il y a quand même très peu de librairies en dehors de New York, de Chicago, de Boston et de San Francisco.
Ouais, mais vous pensez pas que cette dynamique de l'information continue aujourd'hui aide à détruire quand même?
Moi, c'était ce que je voulais dire quand même, c'est que, alors, je ne sais pas exactement quel était le contexte politique aux États-Unis, à quel point ils étaient confrontés au terrorisme et des choses comme ça, mais enfin, je veux dire, quand on pense à quand c'est écrit et quand on pense, par exemple, aux derniers attentats très tristes qu'on a eu en France, pardon, mais plus personne n'ouvrait un livre dans les trois jours qui suivaient, tout le monde regardait BFM TV, H24. Moi, ce qui me fascine.
À l'époque de Delillo, c'était CNN.
On est d'accord. On est d'accord. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, pour le coup, l'info en continu a très, très vite pris le pas. Quand on repense, pour le coup, j'ai vécu un peu aux États-Unis, quand on repense à O.J. Simpson, voilà, il y avait des choses comme ça où d'un coup, nous, en France, on connaissait assez peu, d'avoir une info qui s'étalait sur 10 heures où les gens n'avaient rien à dire. Mais bon, le fait est qu'aujourd'hui, ça arrivait en Europe. Enfin, ça va même submerger le monde d'avoir ces chaînes d'info continu où personne n'a rien à dire, mais les gens regardent. Aucun commentaire intelligent, et c'est vrai que les actes terroristes, et même leur seul but, c'est ça, c'est d'arrêter la pensée, c'est d'arrêter le mot. Il se passe ça, et point barre. Comment Delillo a pu déjà percevoir ça? Moi, c'est quand même quelque chose qui me fascine. À chaque fois que j'entends ce passage, je me dis, mais c'est quand même fou. C'est fou, cette intuition qu'il a eue. Je pense que d'autres l'avaient, hein, c'est pas non plus... Et lui-même, d'ailleurs, ne dit pas que c'est un génie. Il a juste l'impression d'être ouvert au monde, et donc il perçoit des choses, mais quand même, c'est tellement vrai. Et on oublie aujourd'hui à quel point c'est vrai. Enfin, faut se souvenir, après le Bataclan, moi, je me suis forcé, mais vite, j'ai arrêté, en fait. Ça devient tellement anxiogène, et on voit tellement que ça fait le jeu des terroristes, justement.
Oui, tout à fait.
Qui est le discours, la discussion que vous avez entre Bill et Georges. Moi, je suis quand même fasciné, je suis assez d'accord. Et après, sur le pouvoir de l'art, nous, on est confrontés à ça tout le temps, d'autant plus en faisant du théâtre, qui est quand même un art... on a la chance de remplir des salles, mais ça reste extrêmement peu par rapport au cinéma, par rapport à la télévision. Et moi, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup, cette question-là. On en parle souvent avec Julien, d'ailleurs. Il se trouve qu'on a la chance de jouer un peu partout dans le monde. On a l'impression de bien représenter notre art. Et pourtant, on s'aperçoit qu'il est quand même petit. Pour nous, il est tout puissant, c'est pour ça qu'on le fait, et qu'on aime le théâtre, et que le théâtre, je pense, va être tous les jours un peu plus puissant aujourd'hui, parce qu'on a besoin de ce temps présent, on a besoin de ce temps collectif. Mais Le fait est qu'une salle pleine, voilà, à l'Odéon, je sais pas, c'est 450, 500, c'est pas tant que ça, quoi. Qu'est-ce qu'on est par rapport aux millions de vues que font une vidéo YouTube, aux milliards de vues que font un clip, enfin, pas grand-chose.
Mais il y a un choix chez vous, enfin, dans la troupe, d'aller vers des spectacles ultra contemporains, enfin, de défier ça, de défier cette contemporanéité, depuis votre salle, si petite soit-elle.
Oui, mais c'est ce que dit Julien. Moi, je le rejoins tout à fait. On peut s'amuser à contorsionner Shakespeare ou Molière dans tous les sens pour que peut-être, potentiellement, ça va parler à quelqu'un d'aujourd'hui. C'est quand même 10 fois plus simple de parler d'aujourd'hui en prenant Houellebecq, Bolaño ou Don DeLillo. Mmh. Quand moi, je lis les, je fais quasiment pas au théâtre parce que je m'embête trop. Les trois quarts du temps, mais quand je lis les programmes de salles d'un Fedo ou de je sais pas quoi et qu'on essaie de m'expliquer à quel point c'est contemporain, bah je suis désolé, non. Non, c'est pas contemporain. C'est contemporain pour les théâtreux, à la rigueur. Mmh. Mais quelle prise ça a sur le réel pour des spectateurs lambda? Et c'est quand même, je trouve, ce qu'a réussi à faire Julien, enfin en tout cas nous on le voit, on a de plus en plus de jeunes dans les salles, et des gens qui nous suivent depuis les particules, mais qui étaient... Les particules étaient pour la première fois, étaient leur première fois au théâtre. Mais bon, il y a pas que Julien, il y a aussi Sylvain Creusevaux, Vincent Macken. Enfin, il y a quand même tout un mouvement de jeunes metteurs en scène. Quand même, on peut me raconter ce qu'on veut. C'est plus facile de parler d'aujourd'hui avec des auteurs d'aujourd'hui qu'avec des auteurs d'il y a 4 siècles. Aussi beaux soient-ils, et il faut les lire. Hein, je dis pas l'inverse. Il faut les lire, il faut les étudier. Ils sont passionnants. C'est des grands poètes. Mais bon.
Vous êtes d'accord tous les deux, Victoria Canel?
Ah oui, moi, pour revenir sur ce que tu disais, qu'on joue au néo-théâtre, tout ça. Moi, ce que j'entends beaucoup aussi dans cet extrait, là, c'est la question du sérieux, de l'esprit de sérieux, en dehors des logiques de marché. Et en fait, j'ai l'impression que oui, on fait du théâtre, et peut-être qu'on n'a pas une visibilité immense, mais ce qu'on produit, il y a un engagement, qui d'ailleurs se prête beaucoup à l'écriture de DeLillo, et que je trouvais mouvant en ce sens, justement parce qu'il n'est pas peut-être transmis autant que si on était à la télévision. Et moi, j'entends ça quand il parle du terrorisme, sa capacité de fictionnalisation du monde qui est plus forte parce que ça reste aussi dans un engagement qui est dénué qui est loin de logique de marché et du capitalisme.
Oui. Ouais.
Mais il est très clair aussi par rapport justement à la force de la fiction pour rebondir sur ce que tu dis. Il y a eu cette interview qu'il a donnée à votre collègue... François Bunel, sa très très belle revue America, et où, avec voilà cette délicatesse qui lui est propre, Don DeLillo continue à croire en fait à la puissance de la fiction et du roman. C'est-à-dire qu'il est penseur, il est philosophe, il est visionnaire, puisque aussi, je pense qu'il y a une scène dans Joueur où les deux personnages disent, mais tu te rends compte, il pourrait y avoir dans une des tours jumelles
un avion
qui va buter contre.
C'est incroyable, cette
phrase. Mais ça s'est passé.
Dans ce cas-là, on lui a demandé, mais vous êtes, enfin, c'est extrêmement visionnaire, c'est vrai, vous êtes voyant, et il dit non, simplement j'observe le monde dans lequel je vis.
Oui, après il dit aussi que là où il habitait à l'époque, il avait le grand ordinateur devant les yeux H24, donc du coup il place
il
ça
les
là.
Voyait.
Souvent on dit et on voit que les gens résument Joueur à ça, alors que faut bien dire que dans Joueur c'est deux phrases, c'est juste ils sont tous un peu bourrés et un personnage dit ah c'est fou, regarde l'avion, il va s'écraser.
On a un
ange passe. Et puis on est reparti, ils sont bourrés, et puis c'est la fête. C'est rien, mais évidemment, post-2001, on se dit, ce mec, comment il a fait, c'est dingue. C'est incroyable, c'est vrai que c'est... Quelle intuition il a, quoi.
D'autant qu'il joue beaucoup sur ce genre de petits détails. Enfin, ses livres n'insistent jamais sur rien.
Exactement.
Les choses sont dites en passant. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais très bien à savoir ce qui est important ou pas. C'est d'ailleurs une des choses que je voulais vous demander. Parce que moi, quand j'ai vu le spectacle, moi j'ai lu DeLillo souvent, et il me semble, vous allez me dire si je me trompe, Marianne Léron, mais il me semble que ces phrases sont... quand je le lis, j'ai l'impression de voir un tableau de Hopper, Edward Hopper qui ferait des thrillers. C'est-à-dire... c'est très lent, c'est très fixe. Les phrases sont comme dites, arrêtées. Et vous en faites, dans la pièce, vous en faites quelque chose de complètement différent. Il y a une énergie incroyable. Les répliques se succèdent à un rythme électrique.
Oui, je craignais beaucoup ça.
Marianne Véron. Ouais.
Je craignais beaucoup ça en allant voir le spectacle. Je me suis dit, mais DeLillo, ce sont des phrases au scalpel. Ce sont des gens qui parlent presque en chuchotant entre eux.
Oui.
C'est une sorte de clandestinité complice, hostile et bizarre. Mmh. Et là, je lis des critiques qui disent que c'est bruyant, éclectique, explosif. Et je redoutais beaucoup. Et DeLillo, un jour, disait, il a dû le dire souvent, mais moi, je l'ai entendu qu'une fois, que s'il avait été plus Au lieu d'être à 36, disons, il était né en 66 ou 76, il aurait sans doute fait du cinéma. Et j'ai trouvé que, bon, mais qu'il aurait pu faire cette pièce. Que ça correspondait à des médias que lui, il a décrits dans d'autres romans que j'ai traduits, d'autres livres plus tard d'ailleurs, sur des films passés au ralenti. Et c'est une pièce qu'il aurait pu mettre en scène, qu'il aurait pu écrire, qu'il aurait pu monter, avec ce mélange d'écran et de scènes vivantes.
Sur le rythme, le choix de cette énergie trépidante, comme ça, vous avez quelque chose à dire ?
Elles sont différentes, je pense aussi, suivant la personne. C'est ça qui est très beau. Je trouve aussi, dans le travail que fait Julien avec nous, c'est qu'il y a une perception comme ça extrêmement fine et respectueuse du rythme de chacun. Alors il s'agit pas que chacun ait sa rythmie, mais au fond je vais parler de moi, il m'a laissé une sorte de liberté absolument magnifique avec une, je pense que, comment dire ça sans être impertinent, la façon dont il me regarde et dont il m'entend, elle ne ressemble à aucune autre, vraiment. Et je pense qu'elle est juste, bien sûr, par rapport à moi, mais elle est bien sûr juste par rapport à l'ensemble du projet et à ce que lui ressent, perçoit des écritures qui sont mises en vie, en fait, par les uns et les autres.
Oui, et il y a aussi un truc, c'est que, comme une des grandes notes de jeu de Julien, c'est pas de temps entre les répliques.
Oui, c'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Mais ça, c'était à peu près pareil sur certains passages de Houellebecq, et c'était pareil avec Bolaño, et ça l'est encore plus avec Don de Lillo. C'est, voilà, il veut que ça fuse.
Oui, ce sont des...
Probablement pour avoir retrouvé un rapport à la littérature.
Mais oui, exactement.
Aussi, parce que autant à la lecture, ce qu'on disait tout à l'heure avec Victoria, on peut trouver ça assez sibyllin quand même, la découverte de Lillo, autant quand on commence à le dire, ça peut paraître un peu didactique.
Oui, c'est très étrange.
Comme une des grandes questions en tant que lecteur, c'est « mais merde, qui parle ?» depuis 20 pages. Une fois qu'il y a un acteur qui le dit, cette question est totalement évacuée. Donc de fait, voilà, ça règle ce problème-là. Et ensuite, c'est un des gros travaux qui avait été fait sur Mao. Fred, tu me diras si je me trompe, mais sur les scènes avec Georges, justement, comment vous avez de plus en plus épuré le texte, parce qu'on avait l'impression que les choses étaient dites 45 fois, alors que quand on lit, moi j'avais pas cette sensation-là.
Non, moi non plus, j'étais un peu, mais voilà, c'est comme ça. On ne pense pas tout le temps à soi, heureusement. Il y a l'énergie et la globalité du spectacle. Mais je veux dire qu'entre ces deux hommes, justement, autour du terrorisme et la puissance des mots, il y a des choses qui sont absolument sublimes chez Don de Lillo. Et dans une des premières répétitions, Julien m'a dit « Oui, oui, c'est bien tout ça, mais il ne faudra surtout pas être didactique. » Alors que moi, je n'ai pas du tout l'impression qu'il y ait une once de didactisme. On a enlevé beaucoup de choses. Voilà. Enfin, c'est comme ça.
De même que le didactisme, je pense qu'il faut se méfier du côté psychologique. Je pense qu'à un moment, si, il y a aussi cette chose-là de « on enchaîne » parce qu'à un moment, juste les mots sont dits, le corps est engagé. Il n'y a pas besoin de trop décortiquer, expliquer... Il s'agit que la langue
de grands gestes,
fuse.
En fait.
Oui, c'est un théâtre très, très physique.
Oui, ça, je pense que c'est une découverte, que ce soit dans les dialogues ou même dans les grandes, les grands monologues. Oui. Moi, par exemple, un entracte, le premier entracte, en fait, qui n'en est pas vraiment un, parce que les gens ne sortent pas à ce moment-là, mais c'est, je lis un manifeste du Weather Underground, en anglais, avec donc ça, c'est un peu un... Comment dire, Julien, il fait souvent ça dans ses spectacles, donc il y a la musique très fort avec un acteur ou une actrice qui hurle du texte comme ça face publique. Et là, donc voilà, avec ce texte-là, il y a quelque chose de l'engagement, mais total, donc sonore, physique. Et en ça, je trouve que voilà, ça c'est très représentatif de ce travail de, voilà, on est sur un plateau et on produit.
Et il faut dire que le Weather Underground, c'était un groupe gauchiste américain des années 70, violent. Et ça fait partie des ajouts au travail de Lillo. C'est pas dans les romans.
Non.
C'est le travail de collage que vous avez ajouté au roman.
Ouais.
Ce qui donne à l'ensemble du spectacle une apparence totale. Il y a quelque chose d'un spectacle total, comme les références à tout le cinéma des années 60, dans Les Joueurs en particulier, qui disparaît progressivement d'ailleurs après. La question que je me pose, c'est pourquoi, on vous l'a sans doute déjà posé, mais pourquoi continuer à adapter des romans dans le cadre de Lillo en particulier, il a écrit des pièces de théâtre.
Oui, qui étaient prévues. En fait, si vraiment Julien avait été totalement libre...
Oui.
Nous serions peut-être morts, mais nous aurions créé un spectacle, je pense, de 15 heures.
Ah, d'accord.
Avec une pièce de Don de Lillo. qui était le mot pour dire neige.
Oui.
Mais au bout d'un moment, en fait, les gens nous ont dit, vous êtes sympa, mais il faut arrêter avec les spectacles trop longs.
Mm-hmm. Il y a donc, des réalités.
Voilà, il y a des réalités économiques. Voilà. Donc, nous nous sommes arrêtés à 10h30, puis finalement, on a réussi à arriver à 9h20. Mais il y avait eu une tentative. Après, c'est toujours pareil. Quand on pose cette question à Julien, d'une part, il aime la littérature et il aime ce rapport-là et il aime... Je pense que ça permet de donner ce côté total au spectacle dont vous parliez, d'une part. Et d'autre part, il dit, j'ai quand même une troupe avec beaucoup d'acteurs et des pièces de théâtre avec beaucoup d'acteurs, il n'y en a pas. Mmh. Donc c'est très simple. Mmh. Et contemporaine encore moins, puisque du coup, souvent, ce sont les gens qui travaillent dans les théâtres. Et donc, en fait, payer deux acteurs, c'est déjà beaucoup. Donc, en fait, souvent, les pièces contemporaines, il y a deux acteurs. Voilà. Bon, et en plus, par ailleurs, il n'est pas tombé amoureux. Mais avant de monter Les Particules, il avait monté des pièces. Qui étaient déjà assez proches du roman.
Oui.
On sentait déjà cet amour-là. Mais...
Ah oui, une très belle pièce de Hannah Eyling.
Ouais. Magnifique.
Ouais, oui, que tu as joué, par où il y a aussi effectivement un mélange de dialogue et puis de narration. Très belle. Mais il y avait aussi, pardon, je me rappelle qu'on a lu aussi un très très beau texte que vous avez traduit. Badermannhof,
ah ouais.
Qui est un texte absolument extraordinaire et puis qui rentre totalement
de Dolillo,
qui rentre totalement aussi, comment dire, dans sa réflexion très variée de ce qu'on appelle le terrorisme. Et donc, il met en scène deux personnages, si je me souviens bien, qui se retrouvent dans un musée à New York. Et il y a toute cette série extraordinaire du grand peintre Gerhard Richter, qui a photographié, en fait, les corps morts, soi-disant suicidés, mais assassinés par les gens de la prison de Stammheim. Oui, voilà. Certains membres de ce groupe Badermannhof ont été, en fait, assassinés. Et à partir de là, Richter, qui est aussi un grand photographe, a fait une série absolument magnifique et glaçante. Et ce texte est très beau aussi.
Ah oui.
C'est un homme, une femme qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent devant ses peintures et la femme invite l'homme chez elle et ça se passe mal en fait.
Si j'ai bien compris, vous comptez monter un autre roman de Dolillo bientôt, non? Julien Gosselin a parlé
de
L'homme qui tombe.
Oui.
Sur le 11 septembre, cette fois.
Ouais.
Enfin, en tout cas, autour du 11 septembre. Vous en serez les uns et les autres?
Non.
Il le monte avec les acteurs du Tunnel Group. Donc les acteurs hollandais de Ivo Van Hoff.
Mais moi, je parle flamand. Je pourrais m'imiter dans la troupe.
Propose, essaie de te placer.
Me propose pas.
Parce que t'es pas engagé par le Tunnel.
C'est un message.
C'est obligatoire.
Tu lui fais passer.
Oui, absolument.
Non, je blague. C'est une.
Tu nous entends.
C'est une très mauvaise loi. Pardon.
Marine Véron, vous avez cessé de traduire de Dolillo,
Oui, ma vie s'est beaucoup compliquée, beaucoup obscurcie à une époque, et l'idée d'un prochain livre de Dolillo, je pouvais pas affronter ça. Et je l'ai beaucoup regretté, on en a parlé, je lui ai dit que je renonçais à la traduction, je pouvais plus faire ça, non. Mais j'ai adoré le traduire, ça a été formidable parce que c'était tellement mystérieux, tellement bizarre comme expérience, tomber sur des phrases, alors une langue très classique et qui cache des remugles, il y a des fissures dans le monde et des gens qui sont en train de suivre les fissures et d'autres qui ne les voient pas. Et c'est absolument vertigineux, mais quelquefois c'est morbide et il y a eu un moment où j'ai eu besoin d'une explosion de lumière, de joie.
Eh bien voilà, on va s'arrêter là. Allez voir ce spectacle qui est une explosion permanente de 9h, on peut le dire. C'est jusqu'au 23 décembre aux Ateliers Berthier. Ça va ensuite
22.
Tourner. 22 décembre aux Ateliers Berthier, ça va ensuite tourner dans plusieurs villes de France. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Nathalie Dempereur, avec à la réalisation Véronique Villa et à la technique Élise Leu. Dans un instant, une histoire particulière.